Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Dans ce nouveau tournepage réalisé par Simon Martin et animé par Pierre-Alain Bénard, nous vous proposons aujourd'hui de parler du colombier. Le colombier est un élément du patrimoine rural ancien. Et pour ce faire, je vais me référer à un petit opuscule très intéressant intitulé « Les colombiers en Eure-et-Loire » qui résulte d'une étude d'Étienne Champy et de Paulette Couturier, publiée dans le bulletin de la Société archéologique d'Eure-et-Loire, le premier trimestre 1995. Et au préalable, je rendrai un hommage tout particulier à Paulette Couturier, qui vient de nous quitter à la fin de ce mois de mai. Pourquoi mon intérêt pour les colombiers ? Eh bien, tout a commencé avec la préparation d'un panneau historique dédié aux colombiers de la ferme du château du Boulet-Thierry, quelque chose qui a été évoqué récemment dans l'émission Histoire d'en savoir plus, avec l'Association des Amis du Patrimoine du Boulet-Thierry, et j'ai été désigné pour une visite guidée en août 2016, dans le cadre de l'opération « Découvrez un village de Beauce », initiée par la Maison de la Beauce. Voilà pour cet intérêt, cette motivation. Alors, à la veille de la Révolution, sachez, chers auditeurs, qu'il y avait 42 000 colombiers en France, dont 500 dans ce qui allait constituer le département d'Eure-et-Loire, en 1789. Colombier ou pigeonnier, eh bien, en fait, ce sont deux mots qui désignent des édifices qui abritent les mêmes oiseaux, qu'on appelle familièrement les pigeons, du latin columba. Et parmi les différentes espèces, le biset va nous intéresser. Alors, le pigeon, on pense au pigeon voyageur. C'est vrai que c'est assez facile. Il faut dire que la domestication des pigeons remonte à l'Antiquité. Souvenez-vous de Moïse racontant le déluge et Noé qui libère une colombe, laquelle revient quelque temps après avec le rameau d'olivier qui annonce la baisse des eaux et surtout le fait que la colère de Dieu est apaisée. Et puis, il y a aussi cet épisode avec Waterloo et l'origine de la fortune des Rothschild. 18 juin 1815, le télégraphe Chappe ne fonctionne pas parce que, en partant de brouillard, ça ne marche pas. Et c'est le pigeon voyageur qui a informé Nathan Rothschild, avant tout le monde, à Londres, de la défaite de l'armée française et de la victoire des armées européennes, 3 jours avant tout le monde. Et ça a permis un coup de bourse assez extraordinaire, avec achat d'obligations à la clé et revente avec plus-value. Tenez-vous bien, si on traduit en chiffres d'aujourd'hui, une plus-value de 600 millions d'euros seulement. Il y a eu la guerre 14-18 et 39-45. On a parlé des pigeons en uniforme, le pigeon étant membre de l'armée auxiliaire de l'air. Il y a encore trace de tous ces épisodes au Fort Valérien, au musée de la colombophilie, rattaché au 8e régiment des transmissions. Car, tenez-vous bien, malgré les progrès de la science, le pigeon voyageur demeure le seul agent de transmission rigoureusement secret. Et c'est d'actualité, puisque vous vous souvenez, le 12 mai, nous avons eu ce logiciel malveillant WannaCry qui a pollué, on a dit 200 000 ordinateurs, peut-être plus, dans au moins 150 pays du monde. On a parlé de cybercriminalité. Eh bien, si Internet n'existe plus, il y aura encore des pigeons voyageurs pour communiquer. Bon, on ne sera pas bien quand même. Je reviens à notre colombier. Dans le patrimoine rural ancien, ou ce qu'il en reste, dans le village, il y a un point haut, c'est bien sûr le clocher de l'église. Et il peut y avoir un deuxième point haut, c'est le colombier lorsqu'il y en a un. En Eure-et-Loir, il en reste à peine 150 aujourd'hui, suite aux destructions liées au fanatisme révolutionnaire, mais aussi à l'abandon des bâtiments par leurs propriétaires, par perte d'intérêt. Le Colombier est un édifice isolé, séparé des autres constructions. Il y a des normes. La base est rond, carré, polygonale. Il ne sert qu'à contenir des pigeons et il y a dans les murs de ce colombier, les murs intérieurs, des boulins, des alvéoles où nichent ces pigeons. Ce sont donc des alvéoles qui vont jusqu'au rez-de-chaussée. On parle de colombier à pied lorsque ces boulins sont disposés jusqu'en bas ou presque. Et sous l'Ancien Régime, eh bien, le droit de colombier était un privilège accordé par le seigneur. C'était un signe extérieur de noblesse, voire de richesse. Mais me direz-vous, pourquoi tous ces pigeons? Eh bien, il y avait un intérêt économique qui nous paraît moins évident aujourd'hui, c'est la nourriture, la chair, les œufs et les déjections, qu'on appelait, qui formaient la colombine, un engrais extrêmement précieux, un engrais très riche depuis l'Antiquité. Pour vous donner un exemple, pour un colombier de 900 boulins, aux deux tiers occupés par des couples, 900 boulins, 900 nids en quelque sorte, de pigeons, eh bien ça représente une production annuelle de 17 tonnes de colombine, 17 tonnes d'engrais. C'est pas négligeable. Ces colombiers ont fait l'objet de remarques très acerbes dans les cahiers de doléances pour la préparation des états généraux de 1789, car les dommages des pigeons dans les temps de semences et de moissons étaient considérables. Alors, le bâtiment, lui, très généralement, c'est une grosse tour cylindrique. Très généralement, et il y a, je vous le disais tout à l'heure, des normes, c'est-à-dire qu'en fait, on retrouve des critères, on retrouve des constantes dans ce type de construction, avec un soubassement, souvent avec une maçonnerie soignée, des fondements qui représentent un sixième de la hauteur globale et le double de l'épaisseur du mur qui suit. Ce mur étant un quart plus haut que la largeur, que le diamètre de ce bâtiment. Vous voyez, c'est une norme. Le larmier, c'est quelque chose que vous retrouvez quand vous regardez le bâtiment, quand vous regardez le colombier. À mi-hauteur, il y a très généralement une ceinture horizontale qui a une double fonction. Un, empêcher les prédateurs, les rats, les belettes, parce qu'ils aiment bien taquiner les pigeons, les empêcher de grimper, mais aussi briser le ruissellement. Ensuite, il y a une corniche. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est pour arrêter les grimpeurs. C'est en surplomb. Il y a une toiture, bien entendu. Logiquement, lorsque le colombier est à base circulaire, c'est une toiture conique. Au sommet, un épi qui coiffe la pointe, dominé souvent par un pigeon factice ou une girouette. Et des ouvertures, bien entendu, pour l'aération, pour l'éclairement, pour le passage des pigeons, avec une coulisse, une poulie et un cordeau pour ouvrir et fermer la coulisse, parce que toujours pour empêcher les prédateurs d'arriver. Il y a une porte au rez-de-chaussée et cette porte, tenez-vous bien, pour tous les colombiers, elle doit regarder la maison du maître. Car de la porte de la maison du maître, on doit voir la porte d'entrée du colombier. On franchit le seuil, on descend une, deux, voire trois marches. À l'intérieur, un gros poteau de bois qui est un pivot, qui est le support d'une échelle tournante qui permet de visiter les fameux boulins, ces fameuses alvéoles qui supportent les pigeons qui sont en couple. Et ce pivot s'encastre dans un trou des poutres maîtresses. J'aimerais vous envoyer des images, mais j'essaie de vous donner une description aussi fidèle que possible. Alors ces boulins dont je vous parlais tout à l'heure, il faut savoir que chaque boulin correspondrait à la possession d'un arpent carré. Qu'est-ce que c'est qu'un arpent ou acre? Eh bien, ça représente 50 arts ou 5000 mètres carrés ou la moitié d'un hectare, vous voyez, à peu près. Et puis, ces boulins sont disposés à l'intérieur en quinconce. On a 500, 800, 1000 boulins dans le même colombier. Alors, ces colombiers, quel est leur devenir? Quel est leur avenir? Il faut savoir que les propriétaires, souvent, ont entretenu ces bâtiments à grands frais, qu'il y a eu des changements d'affectation, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des colombiers qui sont devenus des silos à grains. L'un d'entre eux, en Eure-et-Loire, une chapelle. Un autre, un transformateur EDF. D'autres, des réservoirs à eau ou des châteaux d'eau, tout simplement. Voire d'autres, des annexes d'habitation. Vous savez bien, je vous rapporte cette phrase de Victor Hugo, il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire et sa beauté à tout le monde. Alors, est-ce qu'on va préserver ce patrimoine de valeur? Il y a une grosse concentration de ces colombiers dans le Drouet-Timbray et en Normandie. Il y en a un très beau au château des Vaux, près de Pongouin, avec une voûte, avec une toiture bulbe en noir d'oise, qui est la réplique du célèbre colombier du manoir d'Angot à Varangeville, en Seine-Maritime. Ça, c'est à voir au château des Vaux. Il y en a un autre qui est très beau, visible de la route, c'est celui de la ferme du château de Vérigny. Et puis, le plus ancien, si vous voulez le connaître, dans le département d'Eure-et-Loire, il est à Olé. Il a été construit en 1560. C'est le plus ancien du département, vous disais-je. Je vous renvoie aux journées du patrimoine. Sachez que, pour ma part, je serai le samedi 16 septembre dans la matinée au Boulet-Thierry, puisque j'ai été désigné pour parler, dans le cadre de ce parcours touristique, mais avec d'autres, de ce colombier. Voilà pour la petite histoire de cet élément du patrimoine rural ancien et ce tourne-page d'aujourd'hui. Je vous remercie, Simon Martin. Je remercie les auditeurs pour leur attention et je vous dis à bientôt sur Radio Grand Ciel, bien sûr.